9h, 11h.
Wendy Bouchard.
10h, 10h, grosso modo, quoi.
10h01.
On a une petite minute de retard, les amis. Soyez les bienvenus néanmoins. Regardez vos mains, regardez la couleur de votre peau, pâle, plus rosée, plus hâlée, comme on dit. Nous ne sommes pas égaux en la matière. Certains sont plus sensibles au soleil ou au froid. Des peaux colorées, des peaux tachetées de rousseur, des peaux qui bronzent ou qui cicatrisent mal. Et derrière cet épiderme, cette enveloppe apparente, beaucoup, beaucoup de mystères liés à la peau. Une grande exposition met tout cela en scène en ce moment au Musée de l'Homme et nous permettra de répondre aussi à des questions peut-être plus métaphysique, plus chimique. Pourquoi dit-on avoir quelqu'un dans la peau? Pourquoi nos peaux se ressemblent ou se correspondent? Comment on reconstruit la peau aujourd'hui? 1000 questions que vous pouvez vous aussi poser à nos invités. On vous attend, le standard est ouvert, Julie, sur le sujet.
Toujours ouvert, le 39 21 50 centimes la minute.
9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. J'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, rien, rien de lui là-haut. Les anges, zéro, je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire, on voit tout.
D'Armstrong, la peau de tous les autres est un organe et un organe si particulier. Bonjour Alain Froment.
Bonjour.
Vous êtes biologiste et anthropologue au Musée de l'Homme de Paris. Françoise Berner est avec nous, chercheuse chez L'Oréal. Bonjour Françoise Berner.
Bonjour.
Le groupe de cosmétiques qui a conçu l'exposition en partenariat avec ce musée, vous aurez beaucoup à nous dire sur la reconstruction de la peau, sur la recherche autour de la peau artificielle notamment. Vous proposez cette exposition jusqu'au 3 juin prochain, l'occasion de mieux la comprendre. Si vous avez décidé de consacrer une exposition à la peau, c'est que c'est à la fois l'organe apparent du corps humain et peut-être celui qu'on ignore le plus, Alain Froment.
La peau, c'est d'abord ce qui nous relie à l'extérieur, mais c'est surtout ce qui raconte notre histoire individuelle, les cicatrices, le vieillissement, et puis l'histoire de notre espèce. C'est pour ça que le Musée de l'Homme est ravi de cette exposition, que nous couplons d'ailleurs à une exposition sur le piercing
oui.
et sur le tatouage. Mais la problématique en fait, des couleurs de peau, c'est quelque chose de central, à la fois pour l'évolution de l'homme, mais aussi pour les questions de racisme. Donc le Musée de l'Homme est au cœur de cette problématique-là. Et puis les avancées technologiques, ça raconte aussi l'homme du futur.
Bien sûr, il y a l'anthropologie de la peau, la culture de la peau, la biologie de la peau. La peau, elle vit, elle change aussi chaque jour. C'est ce qui est intéressant à repérer dans votre exposition. Elle se renouvelle, elle transpire. On parle de nos ongles, de nos cheveux. C'est un organisme archivivant, évidemment, la peau, Françoise Berner.
Oui, tout à fait. En fait, c'est un organe en perpétuel renouvellement et c'est ça qui est fascinant aussi. C'est-à-dire qu'on a plusieurs couches, plusieurs tissus dans cette peau et tous ne fonctionnent pas de la même façon. Mais en tout cas, la couche superficielle est une couche qui se renouvelle.
C'est l'épiderme, la couche
superficielle. C'est l'épiderme, tout à fait. Mmh. Et cet épiderme, en fait, a un processus de renouvellement à peu près tous les 28 jours. Pour finalement nous permettre d'avoir cette surface qu'on appelle la couche cornée et qui nous protège de l'extérieur.
C'est-à-dire qu'on pèle, on se désquame en permanence sans le savoir, parce qu'on parle beaucoup du pelage après le bronzage par exemple, mais en fait on pèle au quotidien quasiment.
Oui, tout à fait. Tous les jours, on perd des centaines, des milliers de cellules de notre surface de peau sans nous en rendre compte.
Et pourquoi ?
Et parce que justement, il faut créer cette couche très superficielle qu'on appelle la couche cornée, qui en fait nous protège de l'extérieur, qui est notre barrière. Et pour créer cette barrière, en fait, il faut que notre épiderme, ce tissu superficiel, se renouvelle et crée ces cellules mortes par une forme de différenciation. Et donc, comme ces cellules s'éliminent, il faut les renouveler. Il faut finalement que cet épiderme se régénère en permanence pour avoir toujours cette fonction barrière.
De manière générale, est-ce que vous trouvez qu'on ne fait pas assez attention à notre peau, si ce n'est justement par ce regard biaisé que peuvent avoir certains sur la peau des autres, Alain Froment ?
Alors, il y a d'abord les aspects médicaux, hein, notamment liés au bronzage, puisque cette couleur de peau qui est tellement diverse dans l'humanité, elle raconte l'histoire des peuples, de leur adaptation au climat. Et il y a parfois des conflits, par exemple, les gens qui sont de peau claire mais qui s'exposent au soleil naturellement ou dans des cabines d'UV risquent des choses, donc les dermatologues le savent bien. À l'inverse, les gens qui sont foncés de peau et qui habitent dans des climats peu ensoleillés peuvent faire des déficits en hormone D ou en vitamine D, qu'il faut compenser, qu'il est facile de compenser. Mais tout ça, ça nous raconte l'histoire des adaptations à partir d'une espèce qui est une espèce africaine, une espèce qui s'est développée il y a plusieurs centaines de milliers d'années dans la savane et qui a conquis le monde entier.
Voilà, et on a perdu des poils, il nous en reste quand même quelques-uns, et puis on a multiplié les couleurs de peau. On va parler de cette histoire anthropologique qui est passionnante aussi, des peaux, des couches de peau. On a affaire à une machinerie très complexe que vous mettez un peu à jour avec nous jusqu'à 11h sur Europe 1. Alain Froment, anthropologue au Musée de l'Homme de Paris, et Françoise Berner, chercheuse chez L'Oréal. À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Elle a la taille d'un drap de lit et pèse deux fois plus que notre cerveau. De quoi parle-t-on ? De la peau. Mmh. Le Musée de l'Homme à Paris propose depuis le 13 mars et jusqu'au 3 juin prochain une exposition intitulée « Dans ma peau ». L'occasion de mieux la comprendre, cette peau, Wendy Bouchard.
Alors, si je reprends vos définitions, ça veut dire à peu près 2 mètres carrés de peau, entre 3 et 5 kilos de peau. C'est quelque chose pour un organe si mystérieux qui enveloppe la vie, qui est aussi une carte d'identité. Hein. Toutes les peaux sont différentes. Il n'y a pas une peau qui se ressemble, il n'y a pas un grain de peau qui se ressemble à l'infroment.
Oui, il y a de la diversité, ça c'est la définition même de l'espèce humaine, on est différent dans nos couleurs, etc. Alors après, il y a des grandes catégories hein, en fonction justement des aires géographiques. Mmh. Et les premiers anthropologues du XVIIIe siècle ont voulu mettre de l'ordre dans cette diversité humaine, se sont appuyés sur la couleur de peau parce qu'ils constataient qu'il y avait une espèce de relation entre couleur et géographie.
Quand on dit européen, comme
voilà,
par
donc
exemple,
là, en Europe, on était blanc, en Afrique on était noir, ouais. en Asie on était jaune, et puis dans le reste du monde, on était un peu jaune, enfin, oui. Mais un peu ambré. Mais en fait, ça sont des catégories tranchées qui ont supporté pendant longtemps même des catégories raciales que la génétique a récusées. Ce qu'on voit, c'est que les tons de peau, ils sont progressifs. On passe progressivement d'une peau à une autre selon qu'on se déplace géographiquement.
Oui, et on a dans les régions très froides la peau qui parvient ou pas à s'adapter, en tout cas qui subit ces agressions comme elle peut. Regardez ces petits-enfants mongols qui, frappés par le froid, ont les joues absolument rouges, comme du blush. Cette peau, elle est soumise parfois à rude épreuve dans ces pays.
Oui, parce qu'en altitude, on a un bombardement d'ultraviolet qui est intense,
oui.
Et donc ça a des conséquences. Mais d'une façon générale, c'est vrai que dans les pays tropicaux, on a aussi ce bombardement qui explique donc que l'humanité première se soit protégée avec cette couche de mélanine à partir du moment où en fait on a perdu nos poils, puisque nos plus proches cousins du point de vue zoologique, ce sont les chimpanzés,
oui.
Ce sont des habitants de la forêt qui grimpent aux arbres, et quand l'humanité s'est détachée de la forêt pour conquérir la savane, on suppose que le pelage a été perdu. On est devenu ce que Desmond Morris, un éthologue américain, dans les années 60, a appelé le singe nu.
Oui.
En fait, nous avons toujours des poils comme les chimpanzés, mais ils sont beaucoup plus minces. Et cette peau dénudée a développé des glandes sudoripares, donc pour transpirer, pour sécréter de la sueur, pour en fait réguler la température, puisque nous devons rester à 37 degrés, hein, comme tout mammifère homéotherme. Au-dessus de 37 degrés, on est mal, bien sûr. Et dans un environnement qui peut atteindre 45 degrés, dans la savane africaine, le fait de transpirer nous permet d'abaisser notre température.
Oui.
Donc la peau humaine est remarquable par rapport à celle des autres animaux.
Oui, qui ont plus de mal justement à transpirer, qui doivent haleter ou en tout cas se
voilà, les mammifères hein. Poilus ont un problème de thermorégulation. Ils peuvent courir très vite quand il fait chaud, mais ils vont être obligés de s'arrêter. Et il y a une théorie de l'hominisation qu'on appelle celle du singe coureur. Nous sommes le plus coureur de tous les singes, hein, puisque nous sommes bipèdes déjà, et nous pouvons forcer le gibier à la course. C'est-à-dire que nous pouvons le poursuivre pendant des heures jusqu'à épuisement, et on pense que ça peut être une stratégie d'adaptation pour occuper une niche écologique qui était libre, celle de la savane et de la possibilité donc de résister à la chaleur par la transpiration.
D'accord, sauf qu'en perdant nos poils et en perdant notre caractéristique de grand singe, en devenant hominidé et bipède, on a perdu aussi une couche qui nous protégeait, l'épiderme, le fameux épiderme, on l'a exposé aux UV, vous allez dire UVA, UVB, à ces rayons du soleil qui nous agressent, mais qui sont aussi responsables de notre couleur de peau. Alain Froment l'expliquait bien. On a des peaux, par exemple, tachetées, les taches de rousseur. Est-ce que c'est génétique, ça, Françoise Bernet?
Alors oui, tout à fait. La couleur de peau, comme Alain l'expliquait à l'instant, est génétiquement drivée, en fait, oui. Dictée. Cette couleur qui est en grande partie liée au pigment qu'on va synthétiser, qu'on appelle la mélanine, et à toute cette diversité du fait de la composition en fait de ce pigment. Et il n'y a pas qu'une mélanine, il y en a deux. Une qui est plutôt brune et une qui est plutôt jaune-orangée.
Oui.
Et en fait, c'est le mélange de ces deux mélanines qui va donner cette couleur que l'on a et cette diversité.
Les albinos, par exemple, ils ont un problème de mélanine ?
Alors, les albinos, c'est une autre question. En fait, c'est une maladie génétique et ils ne sont pas capables de synthétiser de mélanine.
D'accord.
Donc, en fait, les albinos n'ont pas de pigments. Et du coup, ont une peau qui n'a pas de couleur, entre guillemets, qui est blanche. La seule couleur qui est présente chez les albinos, c'est la couleur du tissu par lui-même et de la circulation sanguine avec le rouge, finalement, qui peut être visible. Mais il n'y a pas de pigment. Et du coup, il n'y a pas de protection du tout contre les rayonnements.
Oui. Eh bien, on va poursuivre notre réflexion sur la peau, sur ses caractéristiques, sur la manière dont on la pare et dont on la répare, parce que c'est aussi l'un des thèmes de ces expositions. Vous nous parliez du piercing il y a quelques instants, Alain Froment. À tout de suite avec le plus grand organe du corps humain qu'on connaît assez mal finalement.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1.
Jusqu'à 11h, nous nous intéressons au mystère de la peau, sa couleur, sa sensibilité au soleil, la chimie de la peau, au dedans et au dehors. Et cela à l'occasion d'une exposition passionnante au Musée de l'Homme à Paris.
Dont nous parle Alain Froment, biologiste, anthropologue au Musée de l'Homme, justement. Françoise Berner, chercheuse chez L'Oréal, vous avez coopéré avec votre groupe à cette exposition et avec le musée. On parlait juste avant la pause, notamment des albinos, de la mélanine qui caractérisait aussi notre teint et notre couleur de peau. Vous travaillez en particulier sur le dommage causé par l'exposition au soleil, qui cause un vieillissement prématuré, pas simplement de l'épiderme, mais aussi de la peau en dessous, celle qu'on ne voit pas. Comment on l'appelle c'est le derme en dessous ?
Oui, tout à fait. Alors la peau, qui est un organe, en fait, est composée de plusieurs tissus. Donc le tissu superficiel dont on a parlé jusqu'à présent, c'est l'épiderme.
Oui.
Et en dessous, il y a un tissu qu'on appelle conjonctif, qui est le derme,
d'accord,
qui est surtout composé de grosses protéines matricielles comme le collagène ou l'élastine. Vous en avez tous entendu parler.
Oui.
Et en fait, lors d'une exposition au soleil, on est exposé à différents types de rayonnements. Alors les plus connus sont les ultraviolets. Mais au-delà de la notion d'ultraviolet, il y a encore des notions plus fines, parce que ce domaine de longueur d'onde est divisé en ultraviolet B et en ultraviolet A.
C'est-à-dire ?
Alors, ces rayonnements ont des caractéristiques, des propriétés différentes. Les ultraviolets B sont les plus énergétiques, les plus puissants, finalement. C'est ceux qui vont être responsables du coup de soleil.
Mmh.
C'est ceux qui sont très présents dans une exposition à l'équateur, par exemple, ou en été, quand on s'expose vers l'heure du déjeuner.
D'accord.
Et puis, il y a les ultraviolets A.
Là, donc les UVB, c'est vraiment, ça nous brûle, quoi. Hein,
voilà, exactement. Clairement. Et en général, c'est ceux dont on se méfie le plus parce qu'on va avoir assez rapidement l'apparition d'un coup de soleil si on s'est exposé trop longtemps.
Oui, c'est-à-dire que quand la peau rougit en superficie, est-ce qu'elle est aussi atteinte dans le derme, la couche d'en dessous ?
Voilà, alors ça, on ne le voit pas.
Non.
On n'a pas de signaux, finalement, mais il se passe aussi beaucoup de choses dans la couche profonde de la peau. Et ce qu'il se passe dans la couche profonde de la peau est essentiellement dû à un autre type de rayonnement ultraviolet qu'on appelle les ultraviolets A,
oui,
qui sont en très grande quantité, qui sont un peu moins énergétiques que les UVB, qui ne provoquent pas vraiment de coups de soleil, mais par contre, qui insidieusement sont très pénétrants, beaucoup plus que les ultraviolets B, et vont arriver jusqu'au derme et altérer toute cette matrice dermique.
Et ceux-là, on les trouve où, ces UVA ?
Tout le temps, dans l'exposition au soleil,
permanente,
en fait,
oui,
on a toujours des UVA, parce que comme ils sont très pénétrants, en fait, ils sont beaucoup moins arrêtés par exemple, les nuages ou l'inclinaison du soleil. Donc, ils vont être présents du matin jusqu'au soir.
Et ces UVA, ils jouent sur l'élasticité de la peau, en
l'occurrence. Tout à fait. En fait, ils altèrent la composante dermique. Donc, ils vont altérer, en fait, toutes les propriétés mécaniques et de structure de ce derme. Et exposition, finalement, après exposition et année après année, on va avoir une désorganisation de cette matrice dermique et c'est cette désorganisation qui est en grande partie responsable des signes qu'on voit, des signes de vieillissement.
Oui, donc la peau qui se flétrit, la peau qui se ride et ça, même si on se protège de l'exposition très vive au soleil, on est en permanence soumis à ces UVA si on travaille en extérieur par exemple, hein, Françoise Bernard.
Tout à fait, c'est pour ça.
Si on n'a pas de protection efficace.
Voilà, tout à fait. En fait, il faut avoir une photoprotection efficace. Et dans cette photoprotection, pour qu'elle soit le plus efficace possible, bien sûr, il faut avoir une protection contre les rayonnements UVB.
Oui.
Mais il faut aussi qu'elle soit associée avec une protection contre les rayonnements UVA.
Et là, on parle de la peau, mais on imagine que les yeux sont soumis exactement au même risque et au même rayonnement.
Oui, tout à fait. Et de plus en plus, les conseils en fait, de santé publique recommandent non seulement de protéger sa peau, mais aussi de protéger ses yeux, bien sûr.
Oui. Évidemment, on peut parler des rides de manière positive, Alain Froment, parce que ce sont aussi des marqueurs de notre identité, de notre personnalité, même s'il y a des conséquences. Voilà, l'exposition au soleil qui fait vieillir la peau prématurément. Le travail sur les rides, c'est quelque chose de touchant aussi pour l'anthropologue que vous êtes ?
Oui, plus pour les anthropologues culturels, hein, les ethnologues. Moi, je suis un biologiste, je m'intéresse plus à l'évolution biologique de notre espèce. Mais c'est vrai que selon les sociétés, la place du senior peut être enviée. Hein, c'est la place de domination et donc la ride va marquer cette domination. Et dans d'autres sociétés comme les nôtres, on est plutôt dans une phase de jeunisme où on veut nier un petit peu cette évolution physiologique. Et c'est là qu'effectivement, les gens qui se sont beaucoup exposés au soleil le payent par ces rides qui sont compensées quand la peau est plus foncée, puisque la mélanine, entre autres propriétés, a des vertus antioxydantes. Mmh. Et donc, elle protège davantage le vieillissement. Donc, les rides, c'est surtout le prix à payer quand on a une couleur de peau claire et qu'on s'expose au soleil.
Oui.
Et nos ancêtres, quand ils sont arrivés en Europe, étaient dans des zones assez peu ensoleillées. Un des problèmes actuels, c'est qu'on va beaucoup plus à la plage, puis on va surtout beaucoup plus dans les pays tropicaux, pour pas cher. On va passer 15 jours en République dominicaine. Et là, les gens qui ont la peau claire le payent assez cher.
Mmh. Ben oui, c'est le prix du billet aussi. Hein. Alain Froment, on va revenir juste après la pause sur ces différenciations de peau, justement, sur l'injection de collagène, vous en parliez tout à l'heure, qui permet de retirer la peau. Hein. C'est le principe du Botox, c'est ça aussi, Françoise Bernard ? Ou pas, plus ou moins, j'y connais rien, mais je dis n'importe quoi peut-être. Le collagène, il y a du collagène dans le Botox ?
Non, pas du tout.
C'est un autre peut faire des injections de collagène.
Voilà, de collagène. Oui. De matériaux, en fait.
Et on parlera des greffes de peau, de la reconstruction de la peau artificielle aussi, parce que la technique s'en mêle, la haute technique même, la haute technologie, à tout de suite sur Europe 1, jusqu'à 11h, la peau dans tous ses états.
Le tour de la question sur les mystères de la peau avec Wendy Bouchard et ses invités.
Mes invités, Françoise Bernard, chercheuse chez L'Oréal, le groupe de cosmétiques, a conçu l'exposition avec le Musée de l'Homme, exposition jusqu'au 3 juin prochain. Dans ma peau, l'occasion de mieux comprendre cet organe qui pèse deux fois plus lourd que notre cerveau, qui mesure à peu près 2 mètres carrés. Si vous mettez la peau à plat, tout étendu, Alain Froment, biologiste et anthropologue au Musée de l'Homme de Paris. On parlait il y a un instant du collagène, on va parler de la reconstruction de la peau. La peau, c'est vrai que c'est presque une toile pour dessiner son identité dans beaucoup de tribus. D'ailleurs, avant l'apparition du tatouage très occidental, on dessinait déjà sur sa peau. Le piercing fait partie aussi des marqueurs d'identité d'une peau. Et vous les mettez en valeur, ces piercings, dans votre exposition ?
Oui, parce que, évidemment, en ethnologie, on observe que les différentes cultures traditionnelles ont développé des techniques de marquage. pour se reconnaître, pour un certain nombre de raisons. Donc ça, c'est enraciné dans la préhistoire. On a trouvé quelques squelettes, par exemple, qui ont plusieurs milliers d'années, où on trouve un anneau près des dents. Donc on peut imaginer que c'est un piercing sur la lèvre.
Avec un os,
voilà,
comme on représentait
dans les... Voilà, avec des coquillages, etc. Ce qu'on appelle des labrets. Il y avait ces fameuses femmes du Tchad qu'on appelait les négresses à plateau, hein, dans la terminologie coloniale, mais qui s'inséraient dans les lèvres une assiette hein, de 10 ou 15 cm de diamètre. Mmh. On s'insère ça aussi dans les lobes des oreilles en Amazonie. Donc les cultures traditionnelles sont très inventives de ce point de vue-là. Et avec la révolution des années 60 aux États-Unis, les cultures New Age se sont inspirées de ces modèles traditionnels pour s'approprier un certain nombre de techniques, donc que ce soit de tatouages ou de piercing, qui depuis explosent en quelque sorte.
Aujourd'hui, le piercing, c'est un marqueur d'identité simple ou différent du tatouage pour le coup, parce que ce sont deux manières de graver les choses différentes.
Oui, mais c'est assez pareil. Souvent, les gens qui ont un piercing ont aussi un tatouage.
Ouais.
Alors, les psychanalystes parlent d'ancrage, ancrage au sens de l'encre hein, du tatouage, mais aussi ancrage au sens de l'encre de marine, là où on se fixe une identité. Mmh. Donc, on a l'impression que dans un monde où les identités sont floues, les gens ont besoin de plus en plus besoin de s'ancrer quelque part.
Oui, alors il y a des piercings et des tatouages qui réussissent très bien, Françoise Berner, et puis il y a des peaux qui se sentent agressées, qui réagissent avec des piercings qui s'inflamment, avec des tatouages qui ne prennent pas bien, parce que c'est une agression extérieure quand même. Vous travaillez beaucoup, vous, sur la réparation de la peau et sur les greffes de peau. La première greffe, c'était il y a une quarantaine d'années, de greffe de peau.
Oui, à peu près. En fait, pour arriver à faire des greffes de peau, il a d'abord fallu arriver à cultiver au laboratoire les cellules de la peau et en premier lieu les cellules de la couche superficielle, l'épiderme, pour justement refaire cette fonction barrière. Parce que l'objectif d'une greffe de peau, c'est d'abord d'assurer à l'organisme, d'assurer au corps humain cette fonction de barrière qui est une fonction essentielle pour éviter d'une part que l'eau de l'intérieur de notre corps ne s'évapore et d'autre part que les agressions extérieures ne puissent atteindre l'intérieur de notre corps.
Vous travaillez sur les grands brûlés en l'occurrence. Hein,
voilà, les premiers travaux qui ont initié finalement toute cette recherche autour de la culture des cellules de peau ont été initiés notamment pour répondre à ce besoin absolument essentiel de refaire, de réparer cette peau chez les grands brûlés.
Je me trompe ou on travaillait à l'époque, ou peut-être toujours aujourd'hui, sur de la peau de porc aussi, qui présentait des similarités cutanées avec la peau de l'homme?
C'est vrai que la peau de porc présente des similarités, mais aujourd'hui, on sait très bien travailler et isoler les cellules de peau humaine. Mmh. On sait les faire pousser, donc on sait les amplifier, en avoir une quantité suffisante pour ensuite envisager soit de travailler au laboratoire avec, soit de faire des greffes chez les patients.
La recherche aussi avance sur le sujet et on est en train de mettre en place des imprimantes 3D de peau humaine, ça c'est incroyable. Les Américains travaillent sur le sujet, vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, de nombreuses équipes travaillent sur le sujet de la bio-impression.
La bio-impression, oui.
Et en fait, c'est une évolution et le futur de tout ce travail de 40 ans de culture et de reconstruction de la peau. En fait, l'idée est de pouvoir plus facilement et avec une complexité encore plus importante que celle qu'on est aujourd'hui capable de faire au laboratoire, de reconstruire une peau finalement la plus parfaite et la plus proche d'une véritable peau au laboratoire.
Comment on ferait en impression 3D ?
Alors, les techniques constituent finalement à imprimer non pas un matériel inerte comme du plastique ou du métal, mais un matériel biologique. Donc, pour avoir ces techniques d'impression de matériel biologique, il faut que les cellules soient dans un environnement qui leur permette de survivre et puis d'acquérir leurs fonctions. Hein, c'est ce qui est recherché finalement. Donc, on va utiliser tout un tas de biomatériaux pour les mettre dans cette imprimante et pouvoir les injecter.
Et pour ensuite récupérer quasiment des pellicules de peau, qui seront de la vraie peau. Hein.
Alors
la
ça,
peau dite peau artificielle. Mais
ça, c'est le futur. Oui. C'est effectivement ce vers quoi les équipes qui travaillent en bio-impression travaillent. Mais aujourd'hui, on sait déjà faire au laboratoire, finalement, les couches majeures de la peau et on sait reconstituer les fonctions essentielles de cet organe.
Aujourd'hui, les greffes de peau, elles sont tolérées par les organismes. La peau arrive à se reconstruire lorsqu'on lui repose une couche sur le derme.
Oui, tout à fait. En fait, pour avoir justement une prise de cette greffe la plus parfaite possible, on utilise les cellules du patient à partir d'une petite biopsie. On va isoler ces cellules, les faire pousser dans un laboratoire. Et puis, quand on aura reconstruit soit un feuillet épidermique, c'est-à-dire la couche superficielle, soit quand on aura été plus loin pour avoir une greffe de meilleure qualité encore, une peau du patient, alors on pourra lui greffer. Et comme cette peau sera autologue, c'est-à-dire à partir de ses propres cellules, en fait, on aura une prise de greffe et il n'y aura pas de rejet.
Si vous avez des questions sur la peau, n'hésitez pas, c'est incroyable quand même, hein, la manière dont la technique et la science avancent sur le sujet. N'hésitez pas à questionner Françoise Berner, elle s'exprimait à l'instant, chercheuse chez L'Oréal, autour de cette exposition. Elle a travaillé sur le sujet avec Alain Froment, biologiste et anthropologue au Musée de l'Homme de Paris. On vous attend avec Julie au Standard, sur les réseaux sociaux aussi, ma chère Julie.
Le Standard, c'est le 3921 et pour les réseaux sociaux, le hashtag Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Camélia Jordana pour illustrer notre émission ce matin. Exposition, grande exposition jusqu'au 3 juin prochain dans ma peau au Musée de l'Homme. J'aurais pu vous faire écouter Jeter dans la peau, mythique d'Edith Piaf évidemment. Ces chansons racontent aussi l'amour et la passion des corps qui s'attirent, Alain Froment. Et ça, j'aimerais poser la question au biologiste que vous êtes et à l'anthropologue. Comment des peaux peuvent se parler, peuvent correspondre, peuvent s'attirer? Parce qu'on parle beaucoup de cette chimie-là.
Alors bien sûr, avoir quelqu'un dans la peau, c'est le processus fusionnel ultime, puisqu'on a tous une petite sphère d'intimité, hein, quelques décimètres autour de nous, et si on laisse quelqu'un entrer dans cette sphère, déjà, on a cette intimité. Et puis, l'avoir dans la peau, c'est vraiment franchir le seuil, la barrière qui nous sépare, puisque la peau, c'est la barrière de l'extérieur, donc c'est le stade, effectivement, ultime de la fusion. Mais la peau, elle a des caractères, notamment d'odeur, hein, de texture, on a des phéromones, on a ces bactéries aussi de la peau qui vont dégager certains parfums. Donc, c'est un processus complexe et dans le contact amoureux, évidemment, puisqu'on est en général dénudé, c'est quelque chose de très fort, la peau.
Comme quand on place le petit bébé sur le ventre de sa maman, nu, sur le fameux peau à peau aussi, qui rassure. Là, on suscite d'autres hormones, j'imagine, l'ocytocine ou d'autres phéromones à l'infomant.
Bien sûr. Donc tout ça, ça a à voir avec l'intimité.
Vous pouvez nous en dire plus sur cette chimie de la peau aussi, sur l'odeur de la peau qui peut attirer. Chaque peau a son odeur, Françoise Berner, ça fait aussi partie de son identité.
Oui, je pense que toutes les caractéristiques finalement nous font notre identité par notre peau. On a toutes ces fonctions, donc les odeurs, la sueur, en fait, tout ça a quand même aussi une fonction de protection, encore une fois, hein, pour faire ce film qu'il y a à la surface de notre peau.
Un film qui est à la surface de notre peau et des bactéries. Alors, on a beau se laver, bon, quand on sort de la douche, on n'en a plus de bactéries. Elles reviennent très vite. Ce sont des bactéries qu'on peut qualifier d'amis à un moment donné et puis d'ennemis un peu plus tard, Françoise.
Alors, dans notre physiologie normale, on a des bactéries. On vit, en fait, avec des bactéries dans de nombreux organes de notre corps. Et l'organe qui a le plus été étudié historiquement, c'était l'intestin.
Oui.
Et on parle du microbiote.
Oui, on fait une grande émission là-dessus, sur les charmes de l'intestin. Oui.
une composante essentielle. Hein. Et en fait, aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus au microbiote de la peau. Et ce microbiote, c'est toute une diversité de bactéries qui sont à la surface de notre peau et qui sont qui vivent en parfaite intelligence avec nous.
On en a besoin ?
Tout à fait, on en a besoin. Ça fait là encore partie de notre film. à la surface de notre peau qui est en interaction avec le monde extérieur. Là où il peut y avoir un problème, c'est quand certaines bactéries qui ne sont pas finalement nos bactéries amies sont en trop grande quantité et alors peuvent générer une infection.
C'est pour ça qu'on dit par exemple pour les bébés, pas de bain tous les jours, il ne faut pas trop laver, il ne faut pas trop soumettre la peau à ces lavages, il faut aussi que, justement que l'épiderme se crée une résistance.
Oui, il y a la composante microbienne, donc le microbiote, mais il y a aussi cette différenciation terminale qui crée cette surface à la peau et qui est responsable de cette fonction barrière. Donc, il faut éviter de trop agresser la surface parce que du coup, cette fonction barrière va être moins efficace. Et pour les bébés, la peau est fragile. Donc, il faut éviter finalement d'avoir des gestes qui seraient trop agressifs et qui altéreraient cette fonction barrière.
Quand on dit qu'on a la peau sèche, c'est quoi ? C'est un déficit de quelque chose ? Simplement que notre peau est plus fragile ?
Oui, les caractéristiques biologiques de la peau sèche, parce qu'il en existe, nous ce qu'on voit, c'est une peau qui desquame plus facilement par exemple, ou de façon un peu excessive, mais en fait il y a des...
Parce qu'on sort de l'hiver par exemple, on a été exposé au froid.
Tout à fait. Et en fait, il y a des mécanismes biologiques qui sont responsables de cette sécheresse. Au cours de la stratification de notre épiderme, justement, pour former cette couche cornée à la surface, il y a des processus très complexes de programmation, d'expression de certaines protéines ou de certains lipides qui vont créer cette fonction barrière et ce film lipidique à la surface de notre peau qui est caractéristique d'une peau qui sera moins sèche. Et donc, cette sécheresse a des causes qui sont réellement sur le plan biologique avec des processus extrêmement fins.
Donc là, évidemment, le commerce y va de toutes ces crèmes... Et L'Oréal, par exemple, hein, évidemment, on peut les citer, parce que vous faites partie aussi en partenaire de cette exposition. On va parler de l'hypersensibilité de cette peau aussi, avec ses multiples noyaux sensoriels, tous ses capteurs, avec Alain Froment, biologiste et anthropologue au Musée de l'Homme de Paris. Puis on va vous citer un certain nombre d'expressions liées à la peau avec Julie, vous allez peut-être pouvoir nous répondre un peu sur ces adages. À tout de suite sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à 11h.
Europe 1.
Alors avec Wendy, on s'amuse, on est en train de chercher toutes les expressions avec le mot peau, la peau dont
alors,
on parle aujourd'hui.
Allez-y, P-E-A-U. Faites-vous plaisir.
Alors, avoir la peau dure.
Alain Froment, biologiste, bon, ça, c'est une question de cuir, c'est ça ? Il y a des peaux plus fermes que d'autres ?
Oui, bien sûr, les peaux tannées, mais ça exprime bien que la peau, c'est donc notre enveloppe, c'est ce qu'on voit le plus, c'est un tissu extraordinaire, hein, qui est imperméable, qui est auto-réparant, etc. Et c'est un signal qu'on envoie à l'autre. Donc effectivement, selon sa qualité de peau, on va avoir dans l'imagination populaire une riche créativité.
Parenthèse avant une autre expression, parce que Charlotte Arrigoni qui a préparé cette émission veut savoir pourquoi on dit qu'on a la chair de poule, quel mécanisme est lié à cette...
Intéressant dans l'histoire de l'évolution, puisqu'il faut imaginer que les autres mammifères ont donc ce pelage. Ils peuvent hérisser leurs poils.
Ouais.
Prenez votre chat, quand il veut impressionner son adversaire, donc il va comme ça hérisser ses poils, parce qu'il y a un petit muscle microscopique attaché à chaque poil, qu'on appelle le muscle arrecteur, qui donne l'érection du poil. Et donc, chez les autres animaux, ça a un intérêt de communication. Chez nous, hérisser le poil, ça ne va pas être très visible. Mais on a quand même gardé, comme un reliquat de l'évolution, ces millions de petits muscles arrecteurs, et qui, quand ils redressent le poil, créent une petite bosse, qu'on appelle donc la chair de poule.
D'accord. Hein,
Et même si là, ça n'est pas pour impressionner l'adversaire, on va quand même supposer que ça envoie un message, notamment un message émotionnel. Quand vous avez la chair de poule, ça peut être soit le froid qui va contracter le muscle, soit l'émotion. Et donc, finalement, l'évolution nous a gardé, à nous, humains, cet héritage.
Et ça ressemble
animal,
vraiment
hein.
à la chair de la poule, en plus,
ouais,
ou du poulet.
Oui.
Autre expression, ça coûte la peau des fesses. Pourquoi on dit ça ?
Parce que, justement, la peau, quand vous l'avez perdue, Françoise en a parlé, c'est terrible, on peut en mourir.
Si on a des lésions. Et puis, la peau des fesses, elle est tellement douce.
Parce que nous sommes aussi des primates assis. Et donc, Donc on passe d'ailleurs la plupart de notre journée assis.
Je vais faire l'émission
donc,
debout maintenant.
Si vous n'avez plus de peau des fesses, c'est assez douloureux.
Juste un petit mot, Marie-Thérèse Doche, la peau c'est notre histoire, la peau ne ment pas. Les intervenants ont parlé de tatouages et les tatouages racontent notre identité. Je suis médecin, on a parlé des greffes de peau et le Téléthon a apporté des succès pour une maladie, l'épidermolyse bulleuse. Qu'est-ce que c'est que cette maladie, Françoise Berner?
Alors, les épidermolyses bulleuses sont des maladies génétiques qui induisent en fait des altérations au niveau de la cohésion entre les cellules et du coup créent des bulles.
Ça se traduit vraiment par des cloques alors sur la
peau ? Voilà, exactement. Et en fait, ça se traduit par une extrême fragilité avec la perte de la partie superficielle, donc de l'épiderme.
On a ces petits bouts de chou qui ont des pansements permanents, c'est ça ?
Voilà, donc ce sont des maladies extrêmement graves pour lesquelles, effectivement, on a aujourd'hui des espoirs en termes de correction génétique.
Heureusement. Julie, d'autres expressions à nous livrer ?
Pourquoi dit-on de quelqu'un que c'est une peau de vache ?
Probablement parce qu'on lui greffe sur sa peau humaine la peau d'un mammifère qui n'a pas bonne réputation.
Un pauvre bête. Jolie fleur dans une peau de vache. Avoir une peau parfaite, ça existe ou pas, Alain Froment ? Et qu'est-ce qu'une peau parfaite pour vous ?
Ah bon, je ne crois pas que ça existe, justement parce que la peau raconte notre histoire. et donc, on inscrit sur elle tous nos événements, nos cicatrices, etc. Et puis notre vieillissement. Mais c'est un mécanisme physiologique.
Julie ?
Il n'y en a plus beaucoup. N'avoir que la peau sur les os, là, on comprend.
Ouais, bon, on tient à sa peau. En tout cas, ça, c'est l'expression qui revient souvent.
Avoir quelqu'un dans la peau.
De nouveau, on a Bernard qui nous écrit avec une question sur le vitiligo. Il a cette maladie depuis 3 ans. Ça laisse une marque très voyante, dit-il. Ça le gêne un peu. Le traitement nécessite de rester au soleil. Et le vitiligo se voit encore plus. Vitiligo, qu'est-ce que c'est, Françoise Bernard ? Bon, j'ai plein de questions un peu spécialistes, mais si vous pouvez répondre.
Alors, je ne suis pas dermatologue, mais je vais répondre quand même à cette question. Le vitiligo, en fait, c'est une maladie qui... c'est une maladie essentiellement auto-immune qui atteint les cellules qui produisent le pigment. Et qui les font disparaître. Et donc, sur les zones de vitiligo, en fait, on n'a plus de ces cellules qu'on appelle les mélanocytes, qui produisent le pigment, la mélanine. Et donc, du coup, on a des zones qui sont totalement blanches, qui sont totalement dépigmentées. Donc, il y a différents traitements, différents essais, et aussi beaucoup de recherches autour de la compréhension même des causes de cette maladie. L'idée aujourd'hui est d'essayer de repeupler, on va dire, les zones qui sont dépigmentées avec des mélanocytes de la personne, des mélanocytes, donc ces cellules qui produisent le pigment, issues de zones qui ne sont pas encore atteintes.
La peau est hypersensible, Alain Froment, 600 000 récepteurs du toucher sur le corps. Au niveau de la pulpe des doigts, vous avez 2300 terminaisons nerveuses par centimètre carré. C'est incroyable. C'est ce qu'on découvre aussi dans cette exposition au Musée de l'Homme.
Voilà, on a tout un tas d'informations qui doivent nous arriver au cerveau par cette enveloppe qui est la peau, donc pour la douleur, pour la chaleur, pour le toucher. Et donc dans l'hominisation, avec le rôle de la main, effectivement, la palpation, la faculté de toucher, de reconnaître les reliefs et de produire du sens à partir de cette communication, ça c'est quelque chose qui repose effectivement sur ces capteurs qui sont spécialisés. Il y en a plusieurs catégories et chaque capteur a son information propre.
Françoise Berner, je vais terminer avec vous parce que vous êtes chercheuse aujourd'hui chez L'Oréal. C'est un groupe qui investit beaucoup sur la peau, sur la manière dont elle nous raconte, dont elle doit nous tenir jeunes, dont elle doit toujours nous proposer un teint parfait. On est dans une réflexion très occidentale. Dans d'autres sociétés, et évidemment, la peau, elle évolue comme ça. On s'en soucie beaucoup moins.
Alors effectivement, les préoccupations sont différentes en fonction de notre culture, de nos habitudes aussi. Mais finalement, on a des préoccupations qui sont certes spécifiques en fonction de qui on est, d'où on vient, mais qui se rejoignent. Et finalement, une des grandes attentes, c'est d'avoir peut-être pas une peau parfaite, mais en tout cas une peau idéale au sens de ce que chaque personne...
En fonction de son âge.
En fonction de son âge et en fonction aussi de... de sa culture.
J'ai Camille du Blanc-Ménil, elle a 86 ans, elle nous écrit: pour les mamies de 86 ans, est-ce qu'on peut espérer une amélioration de la peau? Bah non, au sens propre. La peau de 86 ans, c'est une peau de 86 ans, mais en revanche, on peut en prendre soin.
Alors voilà, tout à fait, notre peau vieillit, ça c'est nous vieillissons de toute façon, on a un vieillissement chronologique, un vieillissement biologique maintenant.
Mais mettre de la crème sur une peau de 86 ans, ça a un sens.
Mais bien sûr que oui. Ça a du sens, parce que prendre soin de sa peau, c'est aussi lui donner l'ensemble de ses fonctions, oui. Notamment de protection, mais la peau a de multiples fonctions, donc... c'est important d'en prendre soin, quel que soit l'âge, bien sûr.
Merci. Françoise Berner, Alain Froment, tous les deux associés comme anthropologues, comme chercheuses pour cette exposition qui vous accueille jusqu'au 3 juin à Paris, au Musée de l'Homme. C'était une belle découverte, ma chère Julie. Prenez soin de vous.
On passe un
bon week-end. Merci à Guillaume, à Naïma, à Charlotte, à Manuel qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci de votre fidélité, chers amis. Je vous dis à lundi. Passez un bon week-end avec Bernard Poirette et compagnie.
C'était Wendy Bouchard. Dans un instant, Andrew Manoff.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.